Business Club de France. Les entreprises françaises en mouvement sur BFM Business.
Et c'est l'heure de notre rendez-vous avec le médiateur national des entreprises, Pierre Pelouzet. Bonjour.
Bonjour Michel Picot.
Aujourd'hui, un appel d'offres, un travail effectué, puis finalement le client décide d'abandonner le projet au bout de 2 ans et donc de ne pas payer. Encore une histoire pas banale, ou peut-être trop banale.
Malheureusement banale. Heureusement, c'est pas si souvent, mais ouais, ça nous arrive aussi, ouais, et c'est important qu'on puisse les traiter.
Notre invité aujourd'hui dans notre studio, Nicolas Blangy, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le président du groupe PRM et par ailleurs président de la Fédération Française du Bâtiment du département de la Somme. Merci d'être avec nous. Pour commencer, un mot peut-être sur le groupe PRM, que faites-vous?
Alors PRM est un petit groupe familial qui a 2 activités principales, une activité de bâtiment et une activité d'industriel où nous faisons de la peinture à façon, c'est-à-dire que nos clients nous envoient un cahier des charges et on fait une peinture sur mesure pour eux.
Voilà, et parmi pour ce qui concerne la peinture, c'est la filiale Prospa, hein,
c'est ça, Prospa. Tout à fait.
Voilà, parce que c'est elle qui nous intéresse,
c'est elle,
dans le cas précis. Prospa remporte donc un appel d'offres pour la fourniture de peintures industrielles sur une nouvelle ligne de production. Donc effectivement, vous fabriquez des peintures industrielles, c'est pour l'automobile, le secteur agricole, les fonderies, enfin tous les fûts également, je vois ça. Quelle est votre mission dans le cadre de cet appel d'offres?
Alors en fait, c'est un appel d'offres particulier puisque la ligne n'existe pas encore. Donc tout est décrit, mais ça n'existe pas. Donc on va nous donner des instructions précises de en termes de qualité de la peinture, résistance aux UV, résistance au grenaillage, résistance à la corrosion, et en même temps des caractéristiques techniques qui vont servir à passer sur la ligne, un temps de séchage, il faut pas que ça colle au bout de tant de temps parce qu'on va le mettre on va mettre le produit final dans un emballage et donc il faut pas que ça colle, enfin ce genre d'éléments là. Et à partir de là, on formule notre peinture. Il y a des essais labo qui sont réalisés, des essais d'application sur une sorte de chaîne pilote. Et si on remplit toutes les qualités, on remporte l'appel d'offres. On était plusieurs sur cet appel d'offres et on était ravis, on avait gagné ce marché.
Alors vous l'avez gagné, vous avez fait homologuer cette peinture.
Tout à fait, hein,
c'est ça.
Et nous avons donc reçu notre contrat de fourniture avec une date prévisionnelle de démarrage, sachant qu'évidemment la ligne n'existait pas encore. Donc ouais, là c'est là que ça a commencé à se compliquer puisqu'il a fallu construire cette ligne.
Alors voilà, je crois que vous, effectivement, vous avez rencontré des difficultés de production. De toute façon, ça s'est allé sur 2 ans, hein, ce chantier, c'est bien ça, hein.
Alors c'est pas vraiment un chantier, hein, puisque on est vraiment sur de l'industrie pure, ouais, c'est-à-dire que on est dans une usine où un industriel va monter une nouvelle ligne de mise en peinture de pièces qui avant étaient mises en peinture chez un sous-traitant. Mmh. Donc il décide de rapatrier cette production chez lui et il nous interroge sur la partie produit. Après, il y a un autre appel d'offres pour la partie ligne de production et c'est là que ça s'est compliqué puisqu'en fait cette ligne de production ils n'ont jamais réussi à la faire fonctionner.
Ouais.
Et c'est pour ça que le projet a été abandonné en fait.
Ouais,
et nous, on y était pour rien puisque notre peinture était homologuée, fonctionnait, répondait au cahier des charges. Par contre, la ligne de production, elle n'a jamais répondu au cahier des charges et donc notre peinture n'a jamais pu passer sur cette ligne.
Et c'est pour cette raison-là que ce client a décidé d'abandonner ce projet parce que c'est quand même 2 ans de travail, quoi.
Et puis une ligne de production qu'ils ont quand même payée au bout du compte, hein,
ouais,
puisque même si, à mon avis, il y a eu un accord transactionnel à la fin, donc nous on n'est pas dedans, donc on n'en sait rien. Mais et puis beaucoup de travail pour tout le monde.
Ouais. Mais ça veut dire que pour vous, beaucoup de travail, et ben finalement il abandonne, il dit paye pas.
Exactement.
Je paye pas.
Bah non, on va rien vous acheter, donc c'est fini.
Ouais.
Or dans notre contrat, il y avait quand même une précision qui disait qu'en cas d'abandon de fourniture au tort, nous n'étions pas en tort, nous avons le droit d'être indemnisés à hauteur des frais que nous avions engagés.
Ah bah, à minima, j'ai envie de dire.
Bien d'accord.
Pierre Pelouzet, un commentaire.
Bah, alors on voit, là c'est quasiment la double peine pour l'entreprise de monsieur. D'abord, un investissement sur l'appel d'offres, j'allais dire tout le monde le fait, mais quand même, c'est considérable de devoir investir sur un appel d'offres pour pouvoir démontrer que le produit va fonctionner, etc., etc. Bon. Finalement, l'entreprise de monsieur gagne l'appel d'offres, on pense que ça y est, tout va bien, tout est merveilleux, on continue à investir puisqu'on a gagné l'appel d'offres, et à un moment donné, on vous dit, boum, ah, au fait, non, finalement, on fait pas, ça marche pas, désolé, merci, je vais dire, circuler, il n'y a rien à voir.
C'est un peu ça, ouais.
Et donc, on est dans un cas assez aberrant, et je comprends, très compliqué pour l'entreprise de monsieur, qui en plus n'a pas vocation à se fâcher avec ses clients, qui peut comprendre dans l'absolu que si le projet est arrêté, ben on lui commande pas de peinture, mais malgré tout qui a investi beaucoup d'argent et qui ne peut pas rester sans rentrer un minimum dans cet investissement et récupérer une partie de la somme.
Ouais. Mais votre client avait les moyens, enfin je veux dire
c'est un gros groupe international, ouais. Les montants qui étaient en jeu pour moi sont des montants importants pour mon entreprise.
Bien sûr.
Mais pour cette entreprise, c'est pas des montants. Enfin, c'est une somme, hein. Mais c'est pas des montants délirants pour eux du tout.
Ouais, ouais. Alors, vous décidez de saisir la médiation des entreprises. Pourquoi ce choix ?
Alors, en fait, par la Fédération du bâtiment, j'ai appris l'existence de la médiation des entreprises. Monsieur Pulizet était venu nous présenter son travail en CNSTB, en Commission nationale de la sous-traitance. Et je me suis dit que c'était le seul moyen pour moi de toucher quelqu'un. Parce qu'en fait, la grosse difficulté qu'on rencontre souvent dans des grands groupes internationaux du type de mon client, c'est qu'on a un interlocuteur sur la chaîne, enfin qui s'est occupé du projet, mais le jour où le projet est abandonné, il s'en va sur un autre projet, et puis il dit moi je ne fais plus rien. Un acheteur qui est là pour vous compresser sur les prix, mais c'est tout. Et puis derrière, on envoie un courrier qui part, on ne sait pas où. Donc on n'a pas cette capacité à quand on est une PME à avoir accès à des gens qui vont pouvoir faire avancer votre problématique et puis vous répondre. Donc, suite à la présentation qu'on a eue, je me suis dit c'est vraiment j'ai plus que ça quoi. Sinon, c'est fini.
Ah ouais. C'est le travail du médiateur d'aller chercher, de tirer les ficelles, de trouver la bonne personne au bout quoi.
Oui, absolument. Et c'est vrai que monsieur a prononcé le mot juste, toucher quelqu'un.
Ouais.
C'est assez fascinant, mais effectivement, quand on est une relativement petite structure face à une grande structure internationale, on est rapidement perdu, on essaie d'appeler les gens, ils vont raccrocher au nez, on dit c'est pas le bon numéro, le monsieur est parti, il a changé de projet, son chef a changé de job aussi, et puis du coup vous vous retrouvez complètement perdu. Et non seulement vous pouvez pas résoudre votre problème, mais vous n'avez même pas quelqu'un à qui vous pouvez parler du problème. Et le rôle du médiateur, c'est vrai qu'on a la chance de pouvoir faire ça, et puis la persistance, comme a dû le démontrer Yannick Géhanin qui a porté ce dossier pour la médiation, d'aller chercher la bonne personne, c'est-à-dire quelqu'un qui est capable de comprendre, d'écouter et de trancher, de résoudre, de signer un accord si besoin. Ça, c'est le premier rôle du médiateur dans une médiation, aller chercher la bonne personne.
C'est quand même dingue. Nicolas Blanger, comment s'est déroulée cette médiation et ça a abouti sur quoi ?
On a rempli, enfin j'ai rempli le petit questionnaire en ligne. Très facile à remplir, très pratique. Franchement, on peut mettre toutes les pièces qu'on souhaite en pièces jointes. Quelques jours après, j'ai été contacté. On a pris rendez-vous dans ma société. J'ai expliqué mon problème et on m'a dit tout de suite, on a des contacts dans cette société-là. La personne que j'ai rencontrée, c'est pas elle qui a géré le dossier tout de suite. Elle a dit, je sais à qui je vais demander, vous inquiétez pas. Et c'est comme ça qu'après...
On a le bon interlocuteur en face.
On a un interlocuteur.
Ça permet de comprendre ce que vous avez fait.
Exactement.
Et à partir de là, l'accord a été trouvé ?
Et à partir de là, on a trouvé un accord sans même que la médiation continue à intervenir. On est rentré dans la négociation qu'on aurait dû avoir logiquement vis-à-vis de notre contrat qui a été passé entre l'entreprise et moi-même. Et ça a coulé tout seul. En 6 mois, c'était réglé.
Ah ouais. Pierre, on peut pas parler vraiment de rupture brutale de contrat dans ce cas précis. On n'est pas loin.
On est quand même sur une forme de rupture brutale de contrat, puisqu'il y avait un contrat, il aurait dû être mis en œuvre, et de manière unilatérale, le client a décidé de le rompre. On a une médiation un peu particulière. C'est-à-dire qu'effectivement, le médiateur ou la médiatrice peuvent tout à fait à un moment se dire, finalement, la discussion est enclenchée, j'ai pas besoin de rester au milieu de tout ça. À partir du moment où les gens arrivent à se reparler normalement, finalement, le but, c'est ça. C'est que les gens arrivent à se reparler normalement, à trouver un accord. Et donc, vous voyez, après avoir établi le contact, le choix était de se mettre un peu en retrait et de laisser faire les choses qui, finalement, se sont très bien faites. Ça n'empêche pas de revenir dans le jeu si on sent qu'il y a quelque chose qui se passe mal le long du chemin. Mais toutes les formules sont possibles. C'est ça la beauté de la médiation. Il faut arriver à trouver le bon calibrage pour trouver une solution qui, au final, un accord entre les deux parties, continuer à pouvoir ensuite travailler ensemble et à reprendre le cours normal des choses, même s'il y a eu un accident particulier dans la relation.
Et Nicolas Blanger, vous continuez à travailler avec ce client ?
Tout Tout à fait, c'est un client aujourd'hui, c'est pour nous un vieux client, hein. On fournit ce client depuis plus de 20 ans, ouais. Hein, peut-être même 30 ans. C'était incroyable pour nous d'en arriver là, quelque part aussi. On se dit, mais c'est pas possible de ne pas réussir à toucher quelqu'un, à avoir un interlocuteur, à avoir des réponses à notre question. On n'avait même pas une réponse. C'est même pas qu'on nous disait non, c'est qu'on nous répondait pas du tout.
Ouais.
Et c'est vrai que ça nous a quand même permis de redémarrer sur des bases saines la discussion. Le médiateur nous a dit tout de suite, bon, a priori ça va, vous inquiétez pas, la discussion va démarrer. Si vous avez un problème, vous nous rappelez. Vous nous dites après à la fin ce qui s'est passé, si ça a marché, pas marché. Mais normalement, ça va aller. Ouais, effectivement, ouais. Ça s'est très bien passé.
Ouais, ça veut dire aussi que si on en tire une leçon de ce que vous avez traversé, c'est de bien identifier l'interlocuteur dès le départ. Non, je sais pas.
Non, mais vous avez raison.
C'est jamais évident.
Non,
vous
parce
me direz,
qu'en fait, en plus, il change très très régulièrement. Ouais. À chaque projet, ça change. Et en fait, l'interlocuteur sur cette problématique-là n'est pas forcément l'interlocuteur qui suivait le projet. Puisqu'on passe en plus en phase de contentieux et en fait il fallait juste que les interlocuteurs habituels aient la mission de faire cette négociation, ce qu'ils n'avaient pas avant. Donc eux, ils n'ont pas la mission, ils font pas.
Ouais.
C'est assez.
Pierre Pelouzin, un petit commentaire.
Un petit mot pour remercier la FFB, la Fédération Française du Bâtiment, qui, comme beaucoup de fédérations et de syndicats professionnels, nous aide à faire connaître notre service. Ça a été le cas pour monsieur, on a eu l'occasion de se rencontrer dans ce cadre-là. Et c'est le cas pour beaucoup d'autres, je l'espère. C'est important que les entreprises nous connaissent, c'est important que les fédérations jouent ce rôle-là, parce que sans ça, on peut pas aider les entreprises si elles nous connaissent pas, si elles ne nous saisissent pas. Et vous voyez que dans le cas de monsieur, comme il l'a fait, on est arrivé à l'amener une solution, et c'est tant mieux.
Tant mieux. Merci beaucoup Nicolas Blangy, président du groupe PRM. Merci Pierre Pelouzet.
Merci Michel Picot.
Médiateur national des entreprises. Plus d'infos sur le blog de l'émission businessclubdefrance.com. Merci de votre fidélité.